concentré, je frappe comme la CNC. Écartez-vous, je suis le sensei. Tout pour le clan, la quiche capitale. Reste concentré, je frappe comme la CNC. Intouchable contre un pis au Capitole. Écartez-vous, je suis le sensei. Tout pour le clan, la quiche capitale. Reste concentré, je frappe comme la CNC. Intouchable contre un pis au Capitole. Tout pour la vida, tout pour la quicheta. Qui vivra pira, qui brassera verra. Le daron il m'a dit, dis-moi avec qui tu traînes, je dirai qui tu es. J'ai fait les 100 pas seuls, pour devenir qui je suis, j'ai croisé les refrains. Eux ils étaient vrais, on a fait le même combat, pas comme les autres eux. Ils sont tous des faux eux, aussi vrai que le public de 2020. En vérité les faits commettent plus d'erreurs que les fautes de grammaire au Québec. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, pourtant j'ai jamais souri dans le négatif. La première fois que j'ai sincèrement souri, c'est quand j'ai vu ma carte dépenser 4 chiffres. La vérité c'est malaisant comme les interventions de Jean-Pierre Foucault à Miss France. Le temps c'est de l'argent, faut respecter la roro. Je rêve du 10 d'or, ça pue grave le roro. Soit t'es collabo, soit t'es complotiste. Putain de merde, je suis qu'un artiste. J'étale ma vie similaire à la tienne, noir sur blanc que je dépeins comme un négatif. L'immigration s'habille en couleur, black, jaune et beurre sans les souffle-douleurs. Un caucasien qui s'installe sur nos terres, ils appellent ça du tourisme.
On la réduit à son visage. Un regard fascinant, des cheveux tressés ornés de fleurs, son fameux monosourcil. Elle est partout. Sur les reproductions de ses toiles, bien sûr, mais aussi sur toutes sortes de produits dérivés. Des t-shirts, des tasses, des coussins. Sans nécessairement la connaître, on l'a tous déjà vue quelque part. Au-delà de son image populaire, qui est-elle vraiment? Pas besoin de chercher longtemps pour connaître son histoire. C'est celle d'une vie rocambolesque, passionnée, mais aussi douloureuse. C'est l'histoire d'une artiste et de son œuvre remarquable. C'est l'histoire de Frida Kahlo. Certains critiques ont tenté de me classer parmi les surréalistes, mais je ne me considère pas comme telle. En fait, j'ignore si mes tableaux sont surréalistes ou pas, mais je sais qu'ils sont l'expression la plus franche de moi-même. Je déteste le surréalisme. Il m'apparaît comme une manifestation décadente de l'art bourgeois, une déviation de l'art véritable que les gens espèrent recevoir de l'artiste. J'aimerais que ma peinture et moi-même, nous soyons dignes des gens auxquels j'appartiens et des idées qui me donnent de la force. J'aimerais que mon œuvre contribue à la lutte pour la paix et la liberté. Extrait de Frida Kahlo par Frida Kahlo, lettre de 1922 à 1954.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur la planète des sages. En fait, re-bienvenue après une longue pause de plus d'un mois. Vous entendiez un extrait, comme nous l'a dit Milly Brousseau-Gauthier, qu'on a doublement entendu, d'abord dans la lecture du texte d'introduction, puis dans la lecture de l'extrait. Bonjour Milly.
Salut!
Alors Milly, aujourd'hui, qui, comme vous l'aurez sûrement compris, vient nous parler de Frida Kahlo, cette icône de la peinture. On ne sera pas que deux pour en parler. Nous avons également avec nous François Provost. Bonjour François.
Bonjour Patrick. Bonjour Milly. Mais merci Milly d'amener Frida Kahlo, une personne que j'avais vraiment hâte qu'on en parle dans l'émission parce que on dirait que je suis dans un sweet spot où je connais un petit peu de choses pour être curieux, mais pas assez pour rien apprendre. Puis comme on peut le voir, je suis sûr qu'on va le constater, c'est que on va pouvoir apprendre tout le long de l'émission, puis ça finira jamais.
Oui, effectivement, parce que c'est vraiment une personne, comme je disais dans l'intro, qui a une vie absolument fascinante et qui a fait une œuvre qui a produit quand même quelque chose de remarquable, qui a chamboulé l'art moderne.
Oui, et je sais pas pour vous, mais moi, je suis tout simplement content d'être de retour en studio après une si longue pause. D'ailleurs, il faut le dire, là, cette saison-ci, ou cette demi-saison, en fait, pour cet hiver, là, nous serons maintenant les lundis à 10h. Vous le comprenez parce que c'est l'heure à laquelle on est en ce moment.
c'est le présent.
C'est le présent. Et puis, cette saison, on va à nouveau avoir des collaborateurs traités de plein de figures. Donc, la planète, hein, on le rappelle, on s'intéresse pendant une heure à une personne qui a eu une influence considérable sur la pensée humaine, genre comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Et puis c'est ça, aujourd'hui, Frida qui est pour la première fois à l'émission une peintre, je pense que ça va changer un peu la donne. On a l'habitude de parler, par exemple, d'artistes qui vont avoir écrit des romans, qui vont avoir fait des films, ou sinon on parle de penseurs. Donc, tandis que là, il va falloir aller chercher la sagesse dans des toiles, donc dans des œuvres d'art visuelles.
Et il n'y a pas meilleur médium que la radio pour faire ça.
Oui, effectivement. Alors, c'est le défi de la journée, d'essayer de, d'expliquer à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas les toiles sous les yeux, dans le fond, là, les caractéristiques intéressantes des toiles de Frida. Mais on vous conseille fortement de utiliser Google Images et aller voir pour avoir une meilleure idée. Et sinon, après l'émission aujourd'hui, sur notre page Facebook, là, on va vous partager les tableaux dont on a discuté pour avoir un meilleur repère.
Exactement. Donc, pendant l'émission, il va y avoir une description visuelle, mais on vous invite à vous-même là aussi, pour ceux qui en ont la possibilité d'aller regarder avec leurs propres yeux.
Génial!
Leurs propres yeux.
Ouais, pas les yeux de quelqu'un d'autre.
Non, c'est ça. Une chance que tu l'as précisé. Est-ce que c'est tentant des fois de changer les yeux?
Alors, vous avez vu qu'en ce moment, j'ai parlé pour ne rien dire. C'est pour ça qu'on va passer la parole à Milly Brousseau-Gaudier.
Good choice.
Oui, ben en fait, je vous propose qu'on parle brièvement de la vie de Frida Kahlo, mais qui, quand même, il faut le dire, il y avait beaucoup de choses à dire. C'est souvent quelqu'un dont on discute. Elle est le sujet de plusieurs films, de podcast, mais on parle souvent de sa vie en tant que telle, donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, mais aussi de réfléchir un peu plus à ce qu'elle a apporté à l'art et différents ce qu'on peut retirer finalement de ses tableaux. Mais donc, avant tout, on peut quand même mentionner que Frida Kahlo, c'est une peintre mexicaine qui est connue à travers le monde et c'est probablement l'artiste femme la plus connue, ou en tout cas une des plus connues à travers le monde, à travers l'art de manière générale. Donc, elle est née à Coyoacán, donc qui est un quartier de la ville de Mexico, en 1907, quoique elle a tendance à mentir et dire qu'elle est née en 1910, parce que ça coïncide avec la Révolution mexicaine. Et donc, de son vrai nom, elle s'appelle Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mais elle a gardé seulement Frida Kahlo là, dans la vie quotidienne. Sa mère est mexicaine et son père est allemand, donc elle a une identité multiple
On parle culturellement parlant, là, pas un trouble dissociatif de la personnalité.
Oui, effectivement, effectivement, mais c'est quand même un thème qui revient parfois dans ses tableaux, la famille, les origines et tout ça. Puis, dès l'âge de 6 ans, en fait, sa vie se complique. Elle va contracter la polio et elle doit rester alitée pendant 9 mois suite à cette maladie, puis sa jambe droite va grandir moins bien que la gauche et ça va faire qu'elle va boiter pour le reste de sa vie. Ensuite, elle commence à étudier à l'École nationale préparatoire de Mexico, qui est une école très renommée, qui est un genre de... Ben c'est comme l'équivalent du secondaire, je pense, mais c'est comme pour entrer à l'université après. Et elle voulait devenir médecin. D'ailleurs, on dit que c'est là qu'elle a rencontré Diego Rivera, qui était un muraliste très connu, qui va devenir son mari par la suite. Dès son adolescence, elle est engagée politiquement avec ses amis. Elle s'intéresse beaucoup à différentes causes, mais principalement, elle va devenir communiste et ça va être une fervente défendresse de cette idéologie politique.
Il faut mettre ça dans le contexte aussi que le communisme n'avait pas si... fait ses preuves, là. Fait qu'il y avait encore l'idée de rêver sans nécessairement que ça enverrait en dictature totalitaire. Là.
Oui, effectivement, on est quelques années là, après le début de l'URSS, donc on a encore cette idée dans le monde que ça peut être une bonne option. Là. mais malheureusement, à 18 ans, elle va avoir un accident de la route très grave. Elle est dans un bus qui va entrer en collision avec un tramway. Et elle, Frida, va être transpercée au niveau de la hanche par une rampe de métal, donc comme empalée. Et sa colonne vertébrale, son pelvis et plusieurs autres de ses os vont être brisés. Et donc, encore une fois, elle va devoir passer plusieurs mois alitée. Elle est plusieurs semaines dans le coma. au début. Tout son corps est dans le plâtre pendant des mois. Donc, elle a vraiment pas grand-chose à faire parce qu'elle doit rester au lit. Et c'est un motif récurrent dans sa vie, là, on va le voir. Ça s'est produit très souvent parce qu'elle va souffrir finalement de cet accident-là pour le reste de ses jours. Et pour passer le temps à cette époque-là, elle se met à peindre. Et c'est là qu'elle réalise son premier autoportrait. Ses parents vont l'encourager, ils vont même lui offrir un chevalet spécial qu'elle peut installer dans son lit pour peindre couché parce qu'elle peut vraiment pas bouger. Et c'est comme ça qu'elle va devenir peintre.
Mmh. Oui, d'ailleurs, c'est, si je ne me trompe pas, son père qui va lui offrir, son père qui va justement beaucoup l'encourager là-dedans, là, avec lequel elle avait une relation privilégiée.
Oui, en fait, son père était photographe, donc lui-même un artiste. Donc, je pense qu'il était peut-être heureux d'avoir une fille qui suit un peu ses pas, quoiqu'elle va devenir beaucoup plus connue là, que son père. Quelques années plus tard, en 1928, elle va recroiser Diego Rivera, entre autres parce qu'elle voulait avoir son avis sur ses toiles, parce qu'elle est peinte comme ça, elle aime ça, puis elle se demande si ça a de la valeur. Et à l'époque, Diego Rivera est déjà, lui, un artiste là, bien reconnu au Mexique et même dans le monde. Donc, elle veut avoir son opinion et finalement, ils vont se marier parce qu'ils vont... c'est une relation très tumultueuse. Ils vont beaucoup voyager, ils vont avoir des liaisons hors mariage. C'est vraiment là, une relation assez intense. Aussi, il faut dire que Diego a une vingtaine d'années de plus que Frida. Donc, les gens trouvaient que c'était vraiment un drôle de match, mais ils vont être ensemble pratiquement toute leur vie. Une des liaisons les plus célèbres, d'ailleurs, de Frida Kahlo, c'est avec le communiste Léon Trotsky, chef de l'armée rouge autrefois, qui là est chassé de l'URSS par Staline et il vient se réfugier au Mexique chez Frida Kahlo. Et c'est comme ça qu'ils vont vivre une petite aventure. Elle va même lui dédier un de ses autoportraits. Et donc, ça va créer beaucoup de tumulte dans son couple. Et finalement, ils vont se divorcer, Frida et Diego. Mais, même pas un an plus tard, ils se remarient parce qu'ils réalisent qu'ils veulent quand même passer leur vie ensemble, malgré toutes ces événements.
C'est ce genre d'anecdote-là, cette relation un peu dramatique là, entre Diego et Frida, c'est souvent quelque chose qui est dans la plupart des œuvres consacrées à Frida Kahlo. Là, son histoire de vie, c'est quand même quelque chose qui fascine beaucoup les gens. Là. On raconte ces histoires-là, ces anecdotes personnelles. Là. Des fois, on va peut-être oublier l'œuvre qu'elle a laissée au détriment de son histoire.
Mais il faut dire quand même que Diego Rivera, à l'époque, tu l'as mentionné rapidement, Mélanie, mais c'est une big star. Là. C'est le peintre mexicain par excellence. Mmh. Tout le monde le connaît et reconnaît son talent. Puis je pense qu'une des choses qui fascine dans la relation et pourquoi qu'on en parle autant, c'est que Frida a tellement marqué les esprits qu'elle a fini par renverser un peu l'histoire en faisant que c'est rendu lui le mari de Frida et non plus l'inverse. C'est une phrase qu'on entend souvent. Donc je pense que c'est un des aspects de cette relation-là, mais effectivement sur laquelle beaucoup de gens se sont déjà bien attardés.
Oui, c'est ça. Donc, mais il faut quand même le mentionner parce que c'est un thème qui revient quand même souvent dans ses tableaux, sa relation amoureuse et... sa vie, de manière générale, est quand même une de ses principales sources d'inspiration. Mais à travers toutes ces péripéties amoureuses, Frida Kahlo va aussi rencontrer André Breton, qui est une figure très importante du courant surréaliste, un courant artistique d'art moderne en Europe. C'est un Français. Et celui-ci va l'inviter, en fait, à aller exposer ses toiles à Paris parce que lui trouve là, que c'est une surréaliste. Comme on l'a entendu dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, Frida Kahlo, elle, se revendique pas de ce courant-là. Pour elle, elle représente vraiment sa propre réalité. Mais pour les artistes français, là, c'est quelque chose qu'ils ont jamais vu. Son style de peinture est vraiment unique. Puis, c'est pour ça, dans le fond, qu'ils vont lui proposer d'aller exposer ses toiles.
Oui, André Breton, qui, soit dit en passant, elle n'a pas eu de liaison avec André Breton, là, de ce que j'ai compris de sa biographie.
Non, il était juste des
amis. Oui, c'est ça, il était juste chumé. Mais il avait l'air bien tannant avec ça, là, d'ailleurs. Il insistait vraiment beaucoup pour la classer parmi les surréalistes. Et ce qu'elle disait elle-même, c'est que... elle veut peindre le réel. Donc, cette idée-là même, la prémisse du surréalisme qui est « il y a un surréel », elle n'embarquait pas dedans. Donc, c'est juste que comment qu'elle peignait le réel, effectivement, c'était pas en le représentant le plus fidèlement possible, mais en montrant le réel autrement que par le réel.
Oui, de façon symbolique, mais quand même qui réfère au réel.
Exactement.
Effectivement, parce que dans le fond, pour passer très rapidement là-dessus, le surréalisme, c'est quand même, on parle beaucoup du monde des rêves, de l'imagination, de justement aller au-delà du réel, donc ce qui n'était pas du tout l'intention de Frida Kahlo dans ses peintures. Par contre, peu importe ses intentions, elle devient quand même assez populaire. Elle va faire des expositions à New York, au Mexique. Elle devient relativement populaire, mais elle n'a pas là, la popularité qu'on lui connaît, mettons, aujourd'hui. Parce que, entre autres, suite à ces expositions-là, ben, sa santé va vraiment se détériorer. Elle souffre encore de son accident, même si on est une vingtaine d'années plus tard. Puis, il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Là. Elle va avoir de la gangrène, elle va avoir plusieurs opérations, on va lui amputer une jambe. Malgré tout ça, elle continue de peindre. Encore une fois, elle est alitée pour presque toute la fin de sa vie. Dans le fond, elle était constamment au lit. Et elle va faire une exposition au Mexique qui est comme une rétrospective de son œuvre. Et c'est sa dernière... C'est la première fois, en fait, qu'elle expose au Mexique, dans son pays. Puis pour elle, c'est très important. Là, l'identité mexicaine est vraiment au cœur de ses tableaux. Donc, elle est très fière de présenter ça chez elle. Mais elle peut pas se rendre là, à l'exposition. Donc, elle va y aller en ambulance. Et elle va être dans un lit qui est installé dans la galerie d'art. Et donc, les gens vont pouvoir venir la voir et la féliciter là, comme une artiste... le mérite dans un vernissage, mais elle est couchée dans son lit là, tout le long de l'événement parce qu'elle est pas, si elle marche, elle risque de mourir. Mais bon, suite à ça, elle va quand même multiplier là, les séjours à l'hôpital, son état s'empire et finalement, elle meurt à 47 ans en 1954. Depuis, sa maison à Coyoacán, qui est surnommée la Casa Azul, c'est devenu un musée en son honneur où on expose à la fois des toiles et on raconte sa vie et celle de Diego Rivera. Puis après sa mort, donc tu sais là, maintenant sa maison est un musée, elle va devenir de plus en plus populaire, surtout à partir des années 60-70, parce que à l'époque, c'est quand même un peu l'avènement là, du féminisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il y a beaucoup de femmes qui se mettent à me faire plus d'art et à faire de la recherche de la recherche en histoire de l'art. Et ils vont découvrir ou redécouvrir Frida Kahlo. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va reconnaître sa qualité d'artiste en tant que femme, mais aussi simplement en soi, parce que c'est vraiment une façon de représenter le monde, comme on disait tout à l'heure, qui est absolument unique à Frida Kahlo. Aujourd'hui, d'ailleurs, là, son tableau qui s'appelle Roots s'est vendu en 2006 pour 5,6 millions de dollars américains, qui est quand même le record apparemment pour une œuvre latino-américaine. Donc, c'est sûr qu'au cours de sa vie, elle a pas fait beaucoup d'argent. Elle a vécu de ses tableaux, mais disons qu'elle avait pas la même reconnaissance que là. Et juste pour le mentionner, là, elle a peint 143 tableaux, dont 55 autoportraits, qui était quand même là, sa signature de se représenter elle-même dans ses tableaux. Donc, c'est ce qui résume un peu une vie dont on pourrait parler pendant l'épisode au complet.
Oui. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la biographie de Frida Kahlo, il y a le film qui a été fait en 2002 par Julie Timer, la même réalisatrice que le film Across the Universe. C'est ma découverte de l'instant, oui, le film avec la musique des Beatles. Enfin. Donc, c'est ça, film qui, justement, là, même s'il raccourcit parfois des éléments, parce que ben, c'est un film de 2 heures environ, réussit à quand même représenter sa vie avec. C'est ça, quand même très, très bien.
Oui, sa vie à travers ses tableaux, ce qui est quand même une twist intéressante. Et d'ailleurs, parlant du film, je vous propose qu'on écoute un petit extrait qui représente bien, selon moi, là, l'attitude de Frida en tant que peintre.
Et ce n'était pas, par contre, la chanson de Cage the Elephant. Donc, ce sera l'extrait qui arrive dans quelques instants.
I'm not looking for your compliments. I want a serious critique.
But I'm being sincere. These are very original paintings. None of the usual tricks.
But that's not specific.
You have to trust a true compliment as much as a critique.
Yeah, well, some people have told me not to trust what you say. They say if a girl asks your opinion and she's not a complete fright, you'll gush all over her. I need you to tell me one thing, honestly. Do you actually believe that I should continue to paint?
Yes. Yes.
Alors, c'est un extrait du film, un dialogue entre Frida et le fameux Diego. Oui, Diego Rivera, j'ai eu un blanc de quelques instants. À un moment, en fait, faut comprendre là, que Frida vient d'aller lui laisser une de ses toiles. Elle le fait aussi, il est en train de prendre une muraille et elle le fait descendre, qui est quand même un motif assez fort de le plus grand peintre là, du Mexique en ce moment. Tu vas descendre, venir voir ma toile. Mmh. Et puis Diego Rivera reconnaît son talent immense. Il y a aussi l'intrigue amoureuse qui commence à se ficeler un peu là, de faut pas trop faire confiance à Diego, mais surtout là c'est ça là, honnêtement, tu en penses quoi? Oui, il y a un talent remarquable derrière ses toiles. Et ce qui est intéressant, en tout cas à mes yeux dans cet extrait-là, c'est l'attitude de Frida de « je dois savoir si ce que je fais a quelque chose d'unique, a quelque chose qui me permettrait de gagner ma vie ». Parce que c'est aussi ça l'enjeu là, qu'on comprend là, en ayant vu ce qui précède dans le film. Donc elle veut s'assurer que justement c'est une artiste à part entière.
Il y a une attitude aussi qui vient avec le code de bullshit là. vas-y au point là, c'est que c'est je suis pas là juste pour me faire dire que c'est bien là. T'sais, j'ai besoin de la vérité là, quitte à ce soit dur à avaler là. C'est intéressant, on dirait que c'est un aspect de sa personnalité, je trouve.
Ben, il faut dire que Frida Kahlo avait quand même là, une force de caractère remarquable et que son désir d'être indépendante était quand même un de ses moteurs, là, quelque chose qui l'animait, puis elle voulait pas que le fait qu'elle ait certains handicaps l'empêche de faire quoi que ce soit, ni d'être un fardeau pour les autres. Donc, dans ses tableaux, c'est un truc c'est un thème qui revient. Tout comme la souffrance, parce que c'est quand même un thème très récurrent, mais aussi toutes sortes d'éléments de sa vie, des événements là, qui se produisent, mais c'est toujours de façon représentée de façon très évocatrice. C'est très cru, c'est très frontal. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est très dur, ces tableaux. Mm. Par exemple, il y a le tableau qui s'appelle Henry Ford Hospital, qui en fait représente une femme nue sur un lit qui saigne. Et ça représente en fait la première fausse couche là, de Frida Kahlo. Puis elle, donc c'est elle-même qui est représentée dans le lit. Et autour du lit, qui est comme dans un décor un peu gris, il y a un pelvis, un fœtus, une orchidée, un modèle de ventre en plastique là, comme un modèle de femme enceinte et une espèce de machine qui sont comme tous interreliés jusqu'au corps de la femme. Donc, tu sais, tantôt, on parlait de représenter sa réalité. C'est quelque chose qu'elle a vraiment vécu. Puis elle met ces éléments-là qui sont vraiment des symboles qui représentent l'événement en tant que tel. C'est pour ça qu'on peut vraiment la dissocier là, du surréalisme et de cette idée de rêverie. C'est pas un rêve, c'est vraiment quelque chose qu'elle a vécu. Puis c'est quelque chose de traumatisant. Mmh. Ça l'a vraiment bouleversé. Le fait qu'elle puisse pas avoir d'enfant dans la vie, c'est quelque chose qui revient de temps en temps dans ses tableaux. Mais dans celui-là, c'est très, très évocateur.
Et les réalités qui sont dures, la fausse couche, avortement, tout ça, c'est des sujets très féminins qui, justement, comme tu disais, c'est une des artistes femmes les plus connues, puis c'est une des pionnières aussi. Là. Il n'y en avait pas tant des artistes femmes, en tout cas, des connues, puis de dépeindre des réalités qui sont très, très féminines, dans le sens que, tu sais, l'histoire n'a jamais parlé presque de ça jusqu'à présent, puis là de l'évoquer dans quelque chose de très très brutal, c'est d'autant plus révélateur, je trouve, dans ce contexte-là.
Oui, effectivement, Frida, elle cherche pas du tout là, à embellir la réalité, au contraire, elle parle de sujets qui la touchent et qui touchent effectivement plusieurs femmes. C'est une réelle incursion dans un monde plus féminin. C'est pas juste une représentation par les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui peignent des femmes, mais c'est souvent dans une représentation un peu idéalisé, juste on peut comparer dans le fond la façon dont elle-même se représente dans ses autoportraits et la façon dont Diego Rivera va la représenter elle. Il va faire deux portraits d'elle, dont un qui, où elle est nue, donc c'est plus une idée de, d'être désirable, d'être de, c'est qu'est-ce qui attire un homme chez la femme, c'est souvent ça qui est représenté, puis c'est souvent un peu pas tout à fait réel, dans le sens que c'est vraiment, c'est ça, c'est un, une image idéalisée de la femme, puis Frida Kahlo est comme, elle est les femmes, c'est pas juste ça, c'est plein d'autres choses. Puis c'est vraiment une des premières à le dépeindre de cette façon-là.
Et c'est des sujets, effectivement, regardés d'un point de vue plutôt féminin, mais qui demeurent universels. Je pense que c'est ça qui est encore plus intéressant de dire, ça aurait été possible, là, parler de fausses couches avant dans l'histoire, mais... ce sujet-là n'est pas propre aux femmes, ce n'est pas, je veux dire, c'est eux qui le vivent le plus, disons, avec une plus grande, moi, directement, avec une proximité beaucoup plus violente, mais reste que ce sujet-là est fondamentalement humain.
Oui, effectivement. Puis après ça, bon, celui-là, bon, on parle de, du tableau en question, ça parle de, d'une fausse couche, donc c'est sûr que c'est peut-être plus relié, mais de manière générale, la souffrance, le fait que la douleur peut nous habiter tout au long de notre vie, bien ça, c'est humain. Et effectivement, plusieurs personnes peuvent la ressentir elles aussi. Puis il faut mentionner aussi que à l'époque, on est dans les années 30, le monde de l'art contemporain, c'est vraiment un boys club. Là. C'est vraiment que des hommes. C'est Picasso, c'est Dali, c'est des noms qu'on connaît très bien, mais il y a peu de femmes qui ont accès à ce cercle-là. Et Frida Kahlo est vraiment là, la seule qui va avoir la reconnaissance de ses pairs, finalement. Puis ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est que, justement, tu sais, au-delà du fait que c'est une femme, c'est une artiste qui crée des œuvres qui méritent de l'attention de tout le monde, finalement, parce qu'elles ont vraiment des qualités plastiques et picturales intéressantes et uniques, parce que personne peint comme Frida Kahlo.
Et en plus, une artiste mexicaine, le boys club des artistes et même des figures de l'intelligentsia à l'époque, c'est l'Europe. On regarde tout le temps l'Europe et un peu l'Amérique du Nord, mais au niveau du Mexique, ça reste qu'un pays que une figure, on pourrait dire intellectuelle ou artistique, créative, qui émane de ce pays-là, c'est il y avait Diego Rivera, mais ça reste que c'est il y a un autre élément de pas de marginalité, mais c'est, ça ressort un petit peu du lot parce que justement, le Boys Club est composé d'Européens, puis de, c'est très occidental. Le Mexique est occidental, mais est moins dans cette optique-là d'une demi, c'est-à-dire qu'il y a une domination colonialiste, là, si on veut. Là.
Ben oui, effectivement. Puis d'ailleurs, il faut dire que Frida Kahlo demeure encore aujourd'hui une très grande fierté là, pour le Mexique. C'est vraiment une femme emblématique de leur histoire. D'ailleurs, elle est sur les billets de 500 pesos, si je me trompe.
Je savais pas.
Donc, d'ailleurs, là, on parle d'art moderne, tout ça. On parle de sujets très poignants, le fait que ça rejoint beaucoup de gens, mais l'art moderne, c'est, ça rejoint pas toujours tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont comme, moi, je comprends pas ça, ça me dit rien. Quand je regarde ça, je ressens rien. Vous, est-ce que l'art moderne, ça vous parle ou pas du tout?
Ben, grosse question, parce que l'art moderne, honnêtement, j'ai la...
C'est large.
C'est large. Et, mettons, dans la définition que j'ai dans ma tête, ce serait plus comme ce que, là, mettons, le dernier 20e siècle a amené à l'art, là. Mais il y a tellement de courants à l'intérieur de ça. Mais moi, ça vient me chercher. Ça n'est pas tous les mêmes styles, c'est pas les mêmes courants. Mais ce que j'ai aimé, c'est, à travers différents mouvements, de s'émanciper un peu du réel. Je pense que le mouvement réaliste a quand même été comme très important avant, pris beaucoup de place. Puis je pense qu'aussi, c'est une des manières qu'on a de dépeindre la vie. Quand on commence l'art, c'est rare qu'on commence par des choses plus symboliques. Donc on dirait qu'il y a quelque chose, il y a eu une innovation à ce niveau-là. Et moi, j'aime ça parce que justement, ça permet d'aller dans des choses un petit peu plus subtiles dans l'expression de comment on peut dépeindre la vie. On dirait des fois, c'est comme de lire entre les lignes de la vie. Et comme, ah, mon Dieu, je vois ce qu'ils ont, l'humeur ou l'idée qu'ils ont voulu émettre, mais c'est très subtil. Mais c'est pas tout qui strike a chord comme ça. Là, mais moi, oui, j'apprécie beaucoup.
Pour supporter ce que tu dis historiquement, il faut dire que l'avènement de la photographie fille a grandement influencé les arts visuels.
Ouais, c'est vrai.
Parce que, ben, c'est ça, là, à un moment donné, on a remarqué que si on voulait capter le réel comme il est, ben, on pouvait prendre une photo. Donc là, la peinture a dû s'en aller et prendre d'autres avenues. Frida Kahlo est un excellent exemple d'avenue qui a été pris par les arts. Et c'est d'ailleurs de elle qu'on continue à parler après cette pause publicitaire. Et également, une chanson, nous allons écouter la Sanduka, si j'ai bien prononcé, Milly Brosseau-Gaultier, à l'espagnol.
Ben, ça serait plus Sanduga.
Ah, d'accord. Donc, on montre encore une fois en onde mon ignorance et mon incapacité à prononcer des langues étrangères. Donc, sur ce, nous allons vers les publicités et on vous revient toujours à Chiz 94.3, la planète des sages.
Envie d'en apprendre plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval? Tu meurs d'envie de connaître qu'est-ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et Chiz 94.3 ont une émission juste pour toi. Les mardis de 11h30 à midi, écoute Question de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le chiz.ca et en balado-diffusion.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
OK, attention. 1, 2, 3,
Chiz!
Anoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga. Un limón, el limón me dio en la cara y el zumo en el corazón. ¡Ay! Sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas tan mala. De mi corazón. Yo te soñaba dormida, dormida te estoy. Que estabas despierta. ¡Ay! ¡Sandunga! ¡Sandunga, mamá, por Dios! ¡Sandunga, no seas tan mala! ¡Ay, mamá de mi corazón!
Nous écoutions Sandunga de Shivala Vargas, qui est paru sur l'album Noche de Ronda en 1961. Tout ça, encore une fois, prononcé dans un espagnol impeccable.
Mais c'est ça que j'allais dire, on t'a donné un défi, là, Pat, de devoir présenter la chanson en espagnol. Mais j'ai choisi cette chanson-là aujourd'hui pour plusieurs raisons, entre autres Chavela Vargas, c'est une amie ou en tout cas une connaissance de Frida Kahlo, qui est une chanteuse qui est d'origine costaricaine mais qui a habité au Mexique pas mal toute sa vie. Et la chanson La Sandunga, c'est une valse traditionnelle mexicaine qui apparemment fait office de d'hymne non officiel de la région de Tehuantepec, qui est une région qui est habitée par le peuple Tehuana. Et Frida Kahlo est reconnue pour avoir adopté les vêtements traditionnels de cette société, qui est une société matriarcale. Donc, les vêtements traditionnels mexicains qu'elle porte, en fait, c'est des vêtements Tehuana. Et donc, je crois que c'était vraiment là, une chanson on point, pour dire ça en bon français, pour l'épisode.
En plus, elle finit sur le mot corazón, qui veut dire cœur en espagnol et qui est un de mes mots préférés de cette langue. Donc, ça ajoute beaucoup de choses que je viens de dire.
T'avais hâte de l'entendre.
Corazón, c'est un beau mot.
C'est vrai, mais l'espagnol, c'est une très belle langue, honnêtement. Oui. Les mots. Mais donc, tout ça pour dire... on revient un peu sur Frida Kahlo. On parlait de son œuvre, est-ce que ça nous rejoint, tout ça. Mais il faut dire que ce qui est fascinant avec Frida Kahlo, c'est que comme elle-même est le sujet de la plupart de ses toiles, elle a quand même fait beaucoup d'autoportraits, elle-même est devenue une icône. À la fois parce que sa vie, c'est quand même l'exemple d'une femme indépendante qui a eu sa propre carrière, qui n'est pas blanche, qui est à une époque, en plus, qui était quand même assez genrée, où le rôle de la femme était assez défini comme être une femme au foyer. Donc, pour ça, aujourd'hui, ça résonne quand même avec beaucoup de gens d'être comme « waouh, une femme qui a pris son destin en main ». Mais c'est pas nécessairement... en fait, Frida Kahlo, en tant que telle, elle ne se définissait pas comme une féministe parce que c'est pas vraiment un concept populaire à l'époque, là. Mais ça reste quand même un bon exemple pour, par exemple, des femmes artistes. C'est quand même une femme inspirante. Aussi, elle était ouvertement bisexuelle, donc c'est une icône pour la communauté LGBTQ. Elle est souvent reprise comme un exemple que ça existe depuis toujours, que les identités de genre et les identités sexuelles sont très variées. Et c'est son image, comme je disais là, au début dans l'intro, est reprise partout. Là. C'est presque un logo, finalement, le Frida Kahlo. C'est un peu utilisé à toutes les sauces. Surtout son visage, là, son monosourcil, les fleurs des cheveux. C'est vraiment là, quelque chose qu'on retrouve partout. Puis, à la limite, moi, je trouve que dans cette iconisation, est-ce que c'est un mot? Je sais pas. De Frida, il y a quelque chose d'un peu réducteur, tu sais, de réduire toute son œuvre d'artiste à juste de quoi elle a l'air, de sa représentation d'elle-même. Il y a quelque chose d'un peu dommage, mais en même temps, ça permet une espèce de... Ben, ça peut peut-être éveiller la curiosité de certaines personnes, de genre, ah, c'est qui cette femme-là? Pourquoi on voit sa face sur des coussins, tu sais? Ouais. Mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là.
C'est intéressant parce que tu dis de réduire à son image, mais elle-même, c'est vraiment... était loin de se réduire elle-même à sa propre image parce que ses autoportraits, c'est beaucoup plus que simplement... justement son corps là, c'est tout l'enrobage autour, il y a des jeux aussi dans ce qui est ajouté à elle-même là. Par exemple, je pense à la toile Diego
Diego dans mes pensées.
Diego dans mes pensées. Enfin, en tout cas la toile où dans son monosourcil, il y a l'image de Diego qui apparaît sur son front. Donc on comprend qu'elle n'avait pas un tatouage de Diego dans le front. Donc ce genre de jeux-là qui vont plus loin que la simple représentation comme on en a effectivement là, sur des coussins ou dans la Barbie qui a été faite d'elle, chose qu'on a appris ce matin et qui nous a renversé. Barbie qui l'a drôlement blanchi et réduit son monosourcil et aucunement montré ses handicaps. Donc il y a d'aspects problématiques.
Une entreprise privée occidentale qui ferait quelque chose comme ça.
Ouais, mais effectivement. Donc à ce niveau-là, je crois que il y a quelque chose de réducteur. C'est toujours le problème hein, avec l'iconographisation. On va en inventer des mots aujourd'hui. Déjà, on en parlait un petit peu avec Bob Marley quand on a traité de cette figure-là à l'émission, qui a été réduit par beaucoup en faire seulement un fumeur de potes. C'est beaucoup plus que ça, Bob Marley, Frida aussi. Mais comme tu dis, là, il y a l'ambiguïté de c'est ce qui nous permet de la connaître. Moi, je la connaissais uniquement par l'imagerie qu'on a d'elle avant l'émission.
Puis j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment en vouloir à qui que ce soit parce que ça reste, je pense, mettons, un des autoportraits, une des figures de Frida Kahlo, c'est peut-être la meilleure imagerie pour référer à Frida Kahlo, à son œuvre, à ses pensées, parce que, tu sais, comme on l'a vu, c'était quoi le tiers de ses peintures, de ses toiles, c'était un autoportrait. Puis en même temps, j'ai l'impression que c'est la meilleure forme très, très abstraite, réduite, mais qui exprime le plus de ce que Frida avait comme à offrir au monde. T'sais, j'ai l'impression que les autres œuvres auraient donné une partie de sa pensée, mais le plus de choses qui sont évoquées sont dans un autoportrait, je trouve.
Oui, effectivement. Puis en plus, Frida Kahlo, c'est quand même quelqu'un qui a un peu construit son image, là, son image d'artiste, de femme mexicaine, de, t'sais, le fait qu'elle adopte les vêtements traditionnels dans une époque où là, les États-Unis prennent de plus en plus de place, la mode est influencée par ça, qu'elle décide de porter des tenues traditionnelles mexicaines, la façon dont elle se coiffait, le fait qu'elle ait son fameux mono-sourcil, qu'elle se représente elle-même, elle a quand même un peu une espèce de persona d'artiste. Donc, en jouant là-dessus de son vivant, c'est sûr que ça s'est comme conservé par la suite dans l'image qu'on a de Frida Kahlo, finalement.
T'sais, je pense à une autre figure là, emblématique de par son portrait, Che Guevara. Ça, c'est une image connue, mais c'est pas autant évocateur de tout ce que Che Guevara a à représenter que, mettons, Frida Kahlo, comme tu dis, à la lumière de tout, de comment qu'elle a construit sa représentation.
Ben, c'est drôle que tu parles de lui parce qu'on connaît beaucoup Che Guevara pour être un T-shirt.
Ouais, c'est ça.
Et c'est un peu le même phénomène, on parlait de ça ce matin, que les groupes de musique, les gens qui portent des T-shirts, des groupes, mais qui n'écoutent pas les chansons de ce groupe-là, qui connaissent pas le groupe. Il y a plein de gens qui sont comme, mais voyons donc, tu portes un chandail des Beatles, tu connais pas les tunes. Tu sais, il y a ça, fait que c'est normal qu'on ait un peu peut-être cette réaction avec Frida Kahlo de comme, t'as une tasse à café avec la face à Frida Kahlo, mais tu sais pas que c'est une grande artiste, peintre. Ben, c'est sûr que ça. On a raison, à quelque part, d'être.
Un peu outré.
Ben, oui, mais ben, le outré, c'est peut-être un grand mot. T'sais, on a raison d'être comme faire l'effort de savoir qui tu choisis de représenter par tes achats. C'est quand même important, mais après ça, c'est pas la fin du monde non plus.
Ouais, puis c'est le problème de la commercialisation. Donc, je pense qu'on peut n'en vouloir à personne, à part la personne qui a fait la Barbie, là, lui.
Mais c'est la compagnie de la Barbie. mais donc, je vous propose maintenant qu'on change complètement de registre, parce que là, c'était assez léger comme émission, puis là, on va parler ça de douleur, de souffrance.
Yes!
Parce que c'est quand même quelque chose qui traverse la vie de Frida Kahlo. Là. Je sais pas si on l'a assez bien ressenti dans la biographie, mais c'est toute sa vie, elle a souffert. Elle avait des douleurs chroniques. Son corps la faisait énormément souffrir. Et vers la fin de sa vie, c'était pratiquement intolérable. Donc, pour commencer cette discussion, je vous propose qu'on écoute un extrait d'une lettre que Frida Kahlo a écrite à Diego Rivera au moment où elle est à l'hôpital avant une opération. Je pense que c'est juste avant qu'elle se fasse amputer la jambe. Et juste pour vous mettre en contexte, c'est un moment... Ils sont remariés à cette époque-là, mais c'est quand même plus compliqué. Entre autres, une raison pourquoi ils se sont... Pourquoi Frida en veut toujours à Diego, c'est parce qu'il y a eu une liaison avec la sœur de Frida Kahlo, qui ça a beaucoup blessé Frida.
Ouais,
et donc, elle en parle dans le texte. Donc, c'était juste pour une mise en contexte pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas autant toutes les dynamiques complexes de cette relation.
Et là, nous allons l'écouter en espagnol pour faire plaisir à François qui va chercher le mot corazón dans la lettre et peut-être ne pas le trouver.
Je vais être déçu, celui-là.
Mais faut dire que ce n'est pas la voix de Frida elle-même puisqu'il n'y a aucun enregistrement de la voix de Frida Kahlo. On a cherché, inquiétez-vous pas. Y en a un qu'on attribue à elle à tort, malheureusement, sur YouTube. C'est tout ce qu'on a.
Donc, on y va avec un extrait de cette lettre de 1953.
No me aterra el dolor, y lo sabes. Es casi una condición inmanente a mi ser. Aunque sí te confieso que sufrí. Y sufrí mucho. La vez, todas las veces que me pusiste el cuerno. No solo con mi hermana, sino con otras tantas mujeres. ¿Cómo cayeron en tus enredos? Tú piensas que encabroné por lo de Cristina, pero hoy he de confesarte que no fue por ella. Fue por ti y por mí. Primero por mí, porque nunca he podido entender qué buscabas, qué buscas, qué te dan y qué te dieron ellas que yo no te di.
Alors, pour les gens qui ne parleraient pas espagnol, j'ai une petite traduction à vous proposer. Frida écrit « Je n'ai pas peur de la douleur, et tu le sais, c'est presque une condition immanente de mon être. Même si j'avoue que j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert, la fois, toutes les fois où tu m'as trompée. Pas seulement avec ma sœur, mais avec tant d'autres femmes. Comment sont-elles tombées dans tes bras? Tu penses que je me suis énervée à cause de Cristina? » la sœur de Frida Kahlo. Mais aujourd'hui, je dois t'avouer que ce n'était pas à cause d'elle. C'était à cause de toi et moi. D'abord parce que je n'ai jamais pu comprendre ce que tu cherchais, ce que tu cherches, qu'est-ce qu'elle te donne et qu'est-ce qu'elles t'ont donné que je ne t'ai pas donné.
Ça aurait été meilleur, je pense, la traduction avec des violons, là, comme dans la version qu'on avait.
Avec le thème de la liste de Schindler, qui est une notion de communication. Quand tu veux faire qu'on n'écoute pas totalement les propos à cause qu'il y a un autre élément qui ne fit pas, ça a créé ce sentiment chez moi. Je suis comme, pourquoi, là, en tout cas?
Mais en fait, on a pu avoir les propos en français, des propos violents quand même, qui ne sont pas ceux qu'on a l'habitude d'échanger avec notre copain-copine.
Parle pour toi.
Mais qui aussi sont... quand même, justement, révèle une douleur permanente, mais quand même en ouverture, je n'ai pas peur de la douleur, et tu le sais. Donc, toute cette relation-là, de ne pas en avoir peur, mais en même temps, qu'elle soit là, toujours.
Mais elle a subi quand même, ouais. Là, c'est ça qui arrive. Puis c'est vraiment partie prenante de sa vie, de son œuvre, de sa relation amoureuse aussi, qui joue un rôle dans cette douleur-là, qui transparaît dans ses tableaux. Mais aussi, elle parle évidemment de son vécu, mais de la douleur des autres aussi. Puis c'est pour faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, une des choses qui rejoint beaucoup de gens dans les tableaux de Frida, c'est cette façon qu'elle a de dépeindre la souffrance. Et elle a même dit, là, à la fin de sa vie, elle avait un journal et elle a noté, entre autres, « Sentir dans ma propre douleur la douleur de tous ceux qui souffrent et puiser mon courage dans la nécessité de vivre pour me battre pour eux. » Donc, on sent que vraiment, c'est quelque chose qui l'anime beaucoup. Puis, il y a plusieurs exemples de toiles qui représentent cette douleur, cette souffrance. Je sais que, Pat, tu voulais nous parler, justement, là, d'une de ces toiles.
Oui, ben j'avais entendu la colonne brisée qui est une toile là, de... En fait, c'est un portrait à demi-nu de Frida. On voit notamment ses seins, mais ses seins à travers un corset, donc ce corset qu'elle avait pour ses problèmes suite à son accident en autobus. Donc, elle l'a porté toute sa vie, presque...
Mais c'était périodique, là, elle a eu plein de traitements différents, plein de corsets, de plâtres, incessant.
Ouais, c'est ça, après ces opérations qui ont été par dizaines, ces opérations, donc on la voit dans ce portrait, dans ce corset, désolé, et puis on voit surtout une colonne, donc il y a comme un trou dans son corps qui nous permet de voir sa colonne, mais au lieu d'être une colonne vertébrale, c'est une colonne plutôt proche des colonnes grecques. Et puis cette colonne-là, elle est justement fissurée, brisée, et sur son corps, là, on voit des clous partout. C'est justement une représentation dure de la douleur. On la voit également pleurer. Mais moi, dans cette toile, c'est justement le rapport au corps nu qui reste un corps... qui est quand même un peu idéalisé, du moins c'est séduisant. Donc on voit quand même, parce que Frida, faut le dire, là, dans ses autoportraits, il y avait une volonté de se montrer en tant que femme séductrice.
Désirable.
Ouais, peut-être séductrice, c'est vraiment moins bien choisi. Désirable. mais par-dessus ça, donc on ajoute toute cette douleur qui est à l'extérieur et même à l'intérieur, là, où on a accès à la douleur également à l'intérieur. Je trouve que c'est une toile très dure pour ce double jeu là, entre justement le corps nu et la douleur.
Puis j'ajouterais l'élément de se montrer comme ton désirable, comme tu l'as mentionné, mais en dehors des carcans de critères de beauté parler de l'époque, j'imagine, si ce sont les mêmes qu'aujourd'hui, mais justement, c'est l'utilisation du monosourcil, ou je pense des fois c'est comme un duvet. Donc, juste ces choses-là qui sont t'sais, se montrer désirables, mais par-delà des critères de beauté que l'époque prescrivait, si on veut.
Et dans cette toile aussi, ce qu'on voit, c'est toute la relation avec le monde matériel. Donc, les clous, on peut les voir comme justement le fait qu'elle a été souvent opérée. Donc, l'humain qui est construit, déconstruit, et même la colonne, donc, qui représente de l'architecture humaine. Donc, le monde organique devient finalement le monde matériel. Donc, toute cette relation-là aussi, finalement, les humains, notre corps, qu'est-ce que c'est? T'sais, est-ce que notre corps est comme ces machines ou ces constructions humaines qu'on peut défaire et refaire à notre guise?
On peut se poser aussi la question, dans le cas de Frida Kahlo, est-ce qu'on peut le réparer à l'infini? T'sais, parce que là, toute sa vie, elle a eu des traitements différents, ils ont essayé plein de choses pour qu'elle arrête de souffrir, puis il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, il y a cette idée-là aussi de jusqu'à quel point on peut en durer la souffrance, mais aussi comment vivre avec elle, finalement.
Comment la voir, à quel point on pourrait peut-être changer quelque chose. Puis je trouve que ça démontre aussi comme une espèce de c'est, les humains veulent régler les situations, puis évidemment la souffrance, on veut la régler, mais il y a une certaine finitude, il y a des limites à ce qu'on peut faire, puis c'est des choses plus dures d'avouer, si on veut, cette espèce de qu'on n'est pas capable de tout changer.
Oui, ben effectivement. Puis d'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est valable aussi pour son regard par rapport à la souffrance des autres. Puis un de ses tableaux les plus poignants, je pense. Bon, en tout cas, on avait l'air d'avoir un consensus ici à l'émission. C'est le tableau qui représente le suicide de Dorothy Hale. Je sais que tu voulais en parler un peu, François, mais juste pour faire une mise en contexte, c'est un tableau qui... Il y a une femme américaine qui avait demandé à Frida Kahlo de réaliser le portrait de cette femme-là suite à son suicide. Elle voulait un portrait pour offrir à la mère de la femme qui était décédée. Mais... elle a finalement choisi de représenter le suicide en tant que tel.
Oui, c'est quand même assez... Quand on regarde ça, la première fois, il y a quelque chose de choquant. Et justement, c'est l'effet, on pourrait dire, fonctionne si on le vit comme ça. Parce que moi, c'est comme ça que je voyais également Frida Kahlo dans sa manière d'aborder la souffrance. C'est aussi, justement, c'est des tabous. Parce que le suicide, la mort, c'est des choses qui sont... souffrant de par uniquement l'idée que tu sais que ça va finir, puis évidemment dans des circonstances encore plus dramatiques dans le cas d'un suicide, mais Frida, on dirait que ça il y a un certain lien qui se fait avec la personnalité, mais c'est cette manière très, comme tu l'as mentionné, Émilie, dure, confrontatif là, frontal avec des sujets qui sont tabous. Et moi je trouve ça admirable parce que évidemment quand on est dans des dispositions correct pour affronter ces réalités-là. Moi, je pense que, en tout cas, j'ai une certaine une croyance à ce niveau-là, que ça a des... parfois peut-être un effet thérapeutique, mais c'est juste que c'est des choses qu'on ne veut pas penser, puis que tôt dans la vie, on est confronté avec ces idées-là, de ces tabous-là, mais on n'a pas tout le temps le temps ou la volonté de se faire une idée lucide, juste... c'est très confrontant, justement, conscient, profond, mais des artistes comme Frida Kahlo, quand on regarde ça, ben ça nous fait justement reconsidérer ces choses-là à la lumière peut-être d'une réflexion plus poussée, plus adulte aussi.
Oui, effectivement. En plus, tu sais, on parle de la souffrance dans l'œuvre de Frida Kahlo, mais c'est quand même un motif assez récurrent de manière générale dans le monde des arts, de parler d'artistes qui ont souffert, qui souffrent, que ce soit psychologiquement ou physiquement. On a beaucoup cette idée de l'archétype là, de l'artiste tourmenté qui crée là, à travers ce tourment-là. Donc, j'avais envie de vous demander... en fin d'émission comme ça, est-ce que cette idée de souffrance là, comme un moteur de création, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de pertinent? Est-ce que c'est quelque chose qui apporte à l'art, ou à l'inverse, est-ce que c'est une façon plutôt étrange de représenter le monde, finalement, de le représenter à travers quelque chose de difficile, de douloureux? Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une souffrance, en tout cas, c'est un problème, hein? La vie, on pourrait dire, non, mais quand on souffre, on n'aime pas ça, tu sais. C'est comme un problème, puis j'ai l'impression que dans la vie humaine, ça fait ça en général, mais quand ça va bien, on va juste comme pas réaliser tant que ça, puis on va juste comme continuer avec nos choses, mais quand on vit de la souffrance, de la douleur, des problèmes, c'est là qu'il y a une certaine, ça vient comme naturellement, c'est quelque chose qui va prendre notre concentration, notre vigilance, on va tout le temps, on va peut-être ruminer, mais on va regarder les problèmes, puis il y a quelque chose instinctivement humain de vouloir faire quelque chose. Ça fait partie de notre quotidien, on vit avec ça, on veut faire quelque chose, et l'art est comme une des façons qu'on a justement de, si on n'a pas à, parce que Frida Kahlo n'a pas pu elle-même changer sa souffrance, mais au moins, à travers l'art, changer peut-être son idée de la souffrance. Et elle en parlait dans le film, il y avait une mention, là, mais elle dit « je suis habituée à la souffrance ». Ça ne veut pas dire que c'est le fun, mais au moins, l'idée de comment bien vivre la souffrance, la perspective qu'on a sur la souffrance, elle peut être changée à travers l'art.
Oui, il y a souvent cette idée aussi que... pour créer, pour être un artiste, il faut avoir souffert. On dit souvent là, que si t'as rien vécu, si t'as pas vécu des choses difficiles, tu peux pas créer des œuvres. Personnellement, j'avoue que je suis mitigée par rapport à cette affirmation, parce que je pense que, mettons, des gens comme Frida Kahlo ont un certain talent, et il ne vient pas seulement de la souffrance. C'est sûr que là, ça transparaît beaucoup dans ses tableaux, parce que c'est un thème important de sa vie, mais admettons qu'elle avait décidé de peindre sans avoir vécu cet accident, justement. T'sais, je me demande qu'est-ce qu'elle aurait peint. Je pense qu'elle aurait peut-être représenté complètement d'autres choses, mais elle a quand même en elle cette capacité de représenter la réalité d'une façon très intéressante, autant dans son jeu des couleurs que dans sa façon de représenter les objets, les éléments, d'utiliser une grande symbolique. C'est toutes des choses que, selon moi, elle aurait la capacité de faire, même si elle souffrait pas. Donc, je pense que des fois, personnellement, faut faire attention à cette idée de comme les bons artistes, c'est juste des gens qui étaient tourmentés, tu sais, parce qu'on a plein d'exemples là, d'artistes, de poètes, de chanteurs qui sont des gens qui ont eu des vies très dures, qui étaient souvent déprimés. Il y a toute cette idée du spleen dont on a déjà parlé dans d'autres émissions. Entre autres, là, on avait parlé d'Édith Vortin, mm-hmm. ou bien on parle souvent de Baudelaire, là, le poète, les poètes maudits, tout ça. Ben, c'est quand même une idée récurrente. Puis je me demande vraiment si le fait qu'on entretient un peu cette idée, est-ce que ça nous empêche de créer quand ça va bien, ou c'est vraiment juste que il faut souffrir pour créer?
Puis moi, comment je le vois aussi, je trouve que c'est un peu une fausse idée de se dire quelqu'un qui a rien vécu, qui a jamais vécu. Bonne chance de trouver quelqu'un qui a rien vécu.
Ouais.
L'idée, c'est pas de mesurer la souffrance puis de dire « Ah, t'as plus souffert. » Mais chacun, on a tous, je pense, malheureusement, des sources d'inspiration dans une souffrance qu'on vit, qu'on l'a vécu ou non.
Mais vois-tu déjà, dans ce que tu viens de dire, François, t'as associé le vécu à la souffrance. C'est quand même intéressant de dire, est-ce que ben, vivre et souffrir, là, finalement. C'est comme, non, mais quand on dit quelqu'un a rien vécu, c'est pas qu'il a peu vécu, c'est rarement parce que il a pas il a vécu, là. C'est, il est né, il m'a né, je sais pas, ça fait 20 ans qu'il vit, il a vécu, mais il a pas vécu d'épreuves, il a pas vécu justement de grandes souffrances, il a pas frappé assez de murs pour qu'on puisse affirmer quelque chose comme, ah, cette personne-là a vécu. Donc, on a même cette perspective, même au-delà des arts, on l'a avec la vie elle-même, là, comme quoi pour grandir, il faut manger des claques d'en face. Et puis, ben, justement, là, on la transpose à pour créer, il faut aussi avoir eu son lot de souffrances. Moi, ça m'a beaucoup questionné, je dois avouer, cette semaine, tout ce rapport-là qu'on a en art avec la souffrance. À se demander, c'est ça, à quel point finalement on on aide à surmonter la souffrance en la représentant, ou finalement, il y a un mouvement de rester à l'intérieur? Honnêtement, je ne saurais pas dire. Ça m'a beaucoup questionné parce que personnellement, par exemple, tu demandais tout à l'heure les toiles de Frida, qu'est-ce qu'ils nous font? Quand je regarde une toile de Frida, je suis pas bien. je suis. Puis je sais pas si ça m'aide à éventuellement aller mieux. Mais
l'idée est pas toujours d'aller mieux. L'intention de Frida, je pense pas que c'est de faire la peinture pour que les gens aillent mieux, mais ça suscite nécessairement une réflexion. Dans le fond, si tu regardes la toile, t'es pas bien, ça peut être un moment d'introspection quand même, de dire « Ok, mais pourquoi je suis pas bien? Qu'est-ce qui est représenté qui me met mal à l'aise? Ok, oui, la souffrance, mais pourquoi cette représentation-là de la souffrance me touche? Pourquoi ça m'affecte comme ça? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça me rappelle? » C'est ça aussi l'art. Au début, on parlait de comment réagir face à de l'art moderne. Souvent, c'est quelque chose qui rejoint moins des gens qui s'intéressent moins à l'art. Mais c'est ça, l'idée, c'est de... Il y a un rapport souvent très personnel avec les tableaux de manière générale. Puis Frida Kahlo, je pense que c'est vraiment une artiste qui a réussi là, à faire ça, à rejoindre des gens en parlant de sujets qui n'avaient pas nécessairement été traités avant et d'une manière tout à fait unique, finalement. Donc c'est, selon moi, et selon... l'histoire de l'art, une grande artiste.
Mais merci beaucoup, Millie. Ça l'ouvrait merveilleusement bien, la saison d'hiver de La Planète des Sages, qui va revenir à chaque semaine, avec des collaborateurs différents, notamment la semaine prochaine. Nous allons voir Flavie Bergeron, nous allons l'entendre plutôt, qui va être de retour à l'émission. Elle vient nous parler de qui, Millie?
Elle vient nous parler de Divine.
Exactement, donc... on va découvrir avec, parce que honnêtement, j'ai aucune idée de qui c'est en fait Divine. Donc merci encore, Millie, d'être venue nous présenter Frida.
Grand plaisir.
Merci François Provost, c'est toujours un plaisir de t'avoir autour de la table.
Merci à vous deux, vous étiez super le fun.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, continuez à écouter Chiz 94.3.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.